Yigal Palmore, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Yigal Palmore, vous êtes ancien diplomate israélien. Alors, on va revenir sur cette opération, l'opération Bouclier et Flèche, qui s'est achevée sur un cessez-le-feu après 5 jours de confrontation entre le djihad islamique et Israël. Et encore une fois, Yigal Palmore, c'est l'Égypte qui arrive à faire accepter un cessez-le-feu entre les parties.
Oui, c'est le scénario connu du début jusqu'à la fin. C'est toujours une organisation terroriste, tantôt le Hamas, tantôt le djihad islamique, qui trouve un prétexte pour commencer à tirer massivement des missiles, des roquettes sur le sol israélien de façon indiscriminée, d'abord sur les villes du sud, ensuite un peu plus vers le nord. Après, il y a une intervention immédiate de l'Égypte et parfois aussi du Qatar. Ils n'en font qu'à leur tête. Ils, c'est les terroristes, ils n'en font qu'à leur tête. Et donc Israël se retrouve dans une situation où rien ne peut faire cesser les tirs. Israël réagit. Puisqu'Israël réagit, il doit venger leur honneur et donc les tirs s'intensifient. La contre-attaque israélienne également. Et on est parti pour quelques jours d'échanges de tirs et de feu avec des morts des deux côtés jusqu'à ce que les Égyptiens typiquement parviennent à convaincre les terroristes, qu'ils soient le Hamas ou le djihad islamique, qu'il vaut mieux pour eux de cesser les feux. Eh bien, c'est toujours le même scénario, c'est vraiment à croire que du côté de Gaza, ils n'en ont rien à faire de la vie de leurs propres compatriotes. On n'arrive pas à comprendre, mais évidemment, quand on nous saupoudre de centaines de missiles, il faut évidemment, on ne nous laisse pas le choix, il faut qu'on contre-attaque et voilà. Et c'est un autre round à Gaza, avec cette fois-ci environ 1500 roquettes et obus de mortier qui ont été tirés sur Israël, dont 20% sont tombés sur le territoire de Gaza, en faisant des morts et en faisant des blessés, des dégâts matériels. Donc il faut prendre en compte cela aussi. C'est toujours à peu près 20% des roquettes palestiniennes qui tombent sur Gaza, sur les Gazaouis, et qui font des morts et des dégâts.
Alors aujourd'hui, Yigal Palmore reprend autour du président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, les pourparlers sur le projet de réforme judiciaire. Mais déjà, on entend des membres de la coalition au pouvoir en Israël, et pour ne pas le nommer, le député Otzma Yehudi du sionisme religieux, le député Rotman, indiquer qu'il voulait, quoi qu'il arrive, faire déjà voter les premiers articles de cette réforme. Alors, si d'un côté les pourparlers se déroulent et d'un autre côté certains membres de la coalition veulent faire voter les premiers articles de la réforme judiciaire, à quoi sert les pourparlers autour du président de l'État ?
Eh bien, c'est la vraie question que se posent tous les membres de l'opposition. Et c'est le grand moment de décision de Benjamin Netanyahou. Il devra décider s'il donne le feu vert à ses collaborateurs qui rongent leurs freins, comme Yariv Levin, ou qui annoncent la couleur clairement, comme le député Rotman, n'est-ce pas, qui dit qu'il va y aller, il fonce, il n'attend rien, il fonce, il continue comme si de rien n'était. Alors, soit Netanyahou se positionne avec eux et leur donne le feu vert, soit il essaye de les restreindre pour leur dire il faut quand même donner sa chance à la négociation pour obtenir un consensus large autour de mesures qui feraient au moins un certain consensus à la Knesset, sinon dans le public israélien en général, au moins à la Knesset, pour avoir une belle majorité qui irait au-delà de la coalition, donc de la majorité parlementaire. Et on ne sait toujours pas de quel côté va se positionner Netanyahou. C'est le grand choix qu'il doit faire ces jours-ci, et cela déterminera l'avenir de son mandat.
Alors, autre choix que devra faire aussi Benjamin Netanyahou, c'est sur l'aspect économique et social. En ce moment même est débattu à la Knesset le budget de l'État. On voit déjà des tiraillements avec le parti de Itamar Ben-Gvir, qui pour le moment ne veut pas voter le budget, et Israël voit de nouveau ses prix à la consommation augmenter de près de 6%. En moyenne, c'est énorme. Les prévisions de croissance sont à la baisse pour 2023. C'est la Banque d'Israël qui l'indique. Et puis, dans le même temps, des dizaines de municipalités sont en grève pour cause de captation par l'État de leurs taxes sur les entreprises. On n'a jamais vu une séquence, une fenêtre économique aussi difficile pour Israël ces dernières années.
Oui, tout à fait. Alors, non seulement le pouvoir d'achat a été d'entrée de jeu très compromis avec l'inflation mondiale et avec quand même un taux d'inflation en Israël qui n'était peut-être pas aussi élevé qu'en Europe, mais qui était élevé quand même, surtout quand les prix au départ en Israël sont très élevés par rapport à l'Europe. Donc non seulement les données au départ étaient mauvaises, mais la conjoncture apparemment ne va pas s'améliorer. Il y a évidemment le contexte mondial, il y a aussi le contexte local, on ne peut pas le nier, avec des investissements qui se font attendre, qui ont des investisseurs qui ont mis le frein et de l'argent qui part à l'étranger. Il y a de l'argent surtout du high-tech et des start-up qui part à l'étranger. Il y a surtout cette grève des collectivités locales. Et ça, c'est vraiment du jamais vu, parce que l'association des collectivités locales est gérée par une majorité de maires Likoud, et son président est un proche de Netanyahou. Donc, on ne va pas encore accuser les soi-disant anarchistes, comme le gouvernement a un beau jeu, faire chaque fois qu'il y a des protestations et des manifestations dans la rue. C'est toujours des anarchistes. Alors, est-ce que les maires d'Israël, dont la majorité sont Likoud, sont eux aussi des anarchistes? Ou alors, ont-ils compris quelque chose que nous n'avons pas vu venir? Ils ont tout à fait compris que le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui n'a rien de républicain et qui œuvre uniquement de manière catégorielle et sectorielle, souhaite avoir une mainmise sur l'argent, sur les caisses des municipalités, pour le redistribuer à sa façon. Alors, il y a le slogan qu'il utilise, il dit non, on prend aux riches et on donne aux pauvres. C'est archi faux. C'est le slogan qui ne trompe personne, parce qu'on voit exactement à quoi correspond la formule qu'il veut imposer. Et c'est une formule qui veut dire on prend aux riches et on donne à ceux qui sont proches du ministre. C'est aussi simple que ça. Et ceux qui sont proches du ministre, c'est surtout les villes ultra-orthodoxes, quelques autres aussi, mais comme des villes dirigées par le Likoud, des villes qui ont toujours été Likoud, vont trinquer, on comprend mieux pourquoi les maires du Likoud osent affronter Netanyahou ouvertement, alors que pour tout autre dossier, ils le reconnaissent comme leur leader incontesté.
Et en tout cas, cette situation se ressent aussi au niveau de la Aliya pour tous les pays occidentaux. C'est une véritable dégringolade. Très peu de candidats à la Aliya. Et ça aussi, c'est une première.
Oui, alors c'est passé un peu inaperçu, parce que le chiffre global de l'Aliya est en train d'augmenter, mais c'est à cause de la très très grande vague migratoire qui nous vient de Russie. Quand on examine en revanche les chiffres en provenance des pays européens, des pays du continent américain, eh bien on remarque une dégringolade, vous l'avez bien dit. Par exemple, depuis janvier, le nombre de Olim de France a baissé de 64%. Le nombre de Olim britanniques a baissé de 51%. Et le nombre de Olim des États-Unis a baissé de 32%. C'est vraiment du jamais vu. On ne peut pas attribuer ça uniquement à l'époque post-Covid. On a dit ça l'année dernière. Bon, c'est vrai, après le Covid, il y a eu une grande vague de demandes à l'IA et après, ça s'est un peu tassé. On est revenu sur la moyenne habituelle de ces 10 dernières années, mais là, on est en baisse continue et vertigineuse, qui ne peut pas s'expliquer simplement par le passage du Covid et par l'époque d'après-Covid. Il y a autre chose en jeu, je crois qu'il est trop tôt pour se prononcer, mais c'est peut-être la situation en Israël, la situation politique, c'est peut-être le coût de la vie en Israël, mais en tout cas, ça affecte les olims potentiels d'Europe et des États-Unis, d'Amérique du Sud également, mais aussi d'Afrique du Sud et d'Australie. C'est donc un phénomène global et il faudrait qu'on y réfléchisse très sérieusement dans les mois qui viennent.
Il nous reste pratiquement 2 minutes. Yigal Palmor, vous avez vu la déclaration du président tunisien après l'attentat de l'Agriba. Il dit que, d'abord, il ne le qualifie pas d'attentat, il dit cette fusillade, et il ajoute elle n'était pas antisémite, malgré qu'elle visait des juifs dans une synagogue, dans un lieu très particulier, entièrement juif. Bon, c'est une fusillade, mais cette fusillade n'est pas antisémite.
Malheureusement, on ne pouvait pas s'attendre à mieux de la part de ce président. Il s'est déjà distingué par un discours très violemment anti-israélien et parfois limite antisémite. Donc, le fait qu'il tente de nier le caractère clairement antisémite de cet attentat, c'est tout à fait dans les règles de son activité et de son discours, malheureusement. Que dire de plus? La synagogue de l'Agriba fait l'objet pour la 3e fois de son histoire d'un attentat qui vise un lieu de culte juif, qui vise des fidèles juifs, et donc on doit bien qualifier d'antisémite, puisque c'est la définition même, n'est-ce pas, du terme. Et le président veut regarder ailleurs. Eh bien, qu'il regarde ailleurs, je ne sais pas ce qu'on doit faire à partir de là. Chacun d'entre nous, avant de faire le pèlerinage de l'Agriba la prochaine fois, devra y réfléchir à 2 fois.
Yigal Palmor, merci d'avoir été notre invité sur Radio Shalom, vous qui êtes ancien diplomate israélien. Merci, bonsoir.
Bonsoir.